voter, pourquoi faire et à quoi bon? C'est l'une des questions que l'on entend beaucoup en cette période de préélection. Et l'une de celles que nous aborderons ce soir dans ce nouvel épisode de La Lorgnette, le magazine d'actu de Studio Zef. Les jeunes générations en âge de voter participent moins aux élections nationales que les précédentes, les identifications partisanes se sont un peu relâchées, l'abstention gagne du terrain. Pourtant, les jeunes générations ne sont ni moins engagées ni moins intéressées par la politique que leur aînée. Cet engagement se manifeste moins par les urnes, mais de plus en plus par d'autres voies. C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec deux invités, différents l'un de l'autre, mais tous les deux cherchant à mettre en lumière des idées pour la vie de la cité. Nous accueillons Raphaël Ruger, ou Ruger, je ne sais pas comment ça se prononce, Ruger, et Quentin Le Guy. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et puis bien sûr avec nous Garance qui est en stage à Studio Zef.
Bonsoir.
Bonsoir Garance. Alors, on a choisi de vous inviter tous les deux pour mettre en valeur la jeunesse et son rapport à la politique. Et puis, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, quel est votre lien à la politique, le politique ?
Ouais, tout d'abord, je suis conseiller municipal et communautaire dans la commune nouvelle du Contran en Sologne. Et je suis également vice-président du syndicat de pays de la Vallée du Cher et du Romorantinet. Je suis par ailleurs doctorant à l'université.
Et Raphaël ?
Ouais, je suis élu local, petite commune qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon, de 1200 habitants depuis 2 ans maintenant. Et je mène une démarche qui s'appelle le Tour de France des initiatives locales depuis maintenant 1 mois et demi à la rencontre des élus locaux partout en France. Et je fais étape aujourd'hui chez vous. Merci beaucoup de me recevoir.
Dans votre entourage, dans votre cercle d'amis et d'amis plutôt jeunes, est-ce qu'on va aller voter ce week-end et est-ce qu'on a suivi la campagne présidentielle ?
Tout d'abord, moi... Quand je parle à mes amis, ma famille, je leur dis allez voter. Déjà, c'est primordial, c'est fondamental pour notre démocratie. S'il n'y a pas de vote, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas de démocratie. Donc la première chose, au-delà de dire, de parler des partis ou des personnalités, moi ce qui compte pour moi, c'est qu'on aille voter, qu'on appelle à faire voter, tout simplement pour qu'il y ait un maximum de participation et que cette démocratie ait toute sa légitimité pour la suite, pour notre futur aujourd'hui et demain.
Et pour ma part, j'ai une vie un petit peu double entre celle que j'ai connue dans mon village d'enfance, natale, où c'est vrai, il y a une forme de décrochage par rapport à la politique traditionnelle. Et ma deuxième vie, qui est celle que je mène à Paris, à l'ESSEC, une école de commerce française, où tout le monde est très politisé, tout le monde est très au fait des programmes, de ce qui va se passer. Et je ne sais pas, certains, je pense, iront voter à défaut, par colère dans mon village natal, quand les étudiants de l'ESSEC sont bien plus renseignés. Donc il faut justement amener ces populations que j'ai vues grandir autour de moi à aller aux urnes, à minima pour donner leur opinion, que ce soit par le vote blanc ou que ce soit un vote partisan. Et l'idée, c'est d'encourager tout le monde à dimanche être présent aux urnes et manifester ce qui importe pour eux, c'est-à-dire notamment ce qu'on peut faire pour les jeunes.
Alors je crois que Raphaël, cette différence entre l'engagement à la campagne dans ton village d'origine et l'engagement très politisé de tes collègues de l'ESSEC t'a donné l'idée de faire ce Tour de France. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette initiative ?
Oui, complètement. Je suis parti de chez moi à 16 ans, après mon bac. Je suis parti en classe préparatoire à Tours, où on étudiait la philosophie, l'histoire, les mathématiques. Et l'objectif pendant ces 2 ans, c'était d'intégrer la meilleure école de commerce possible en France. Et je suis arrivé à 18 ans à Cergy-Pontoise, à l'ESSEC, où c'était un monde que je ne reconnaissais pas par rapport à celui que j'avais connu enfant. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de différent et de retrouver mes racines, ce lien charnel à ma terre. Et j'ai décidé en début d'année 2020 de me présenter sur une liste aux élections municipales. Et tout de suite, ça a été un déclic. Cet attachement que j'avais pour chez moi, ça devenait un engagement très fort, beaucoup plus concret. Et en étant jeune, c'est aussi difficile de se faire une place dans les sphères politiques locales. On a souvent des vieux barons qui sont à la députation, qui sont sénateurs, qui sont dans les... on va dire dans les sièges qui comptent pour avoir un impact. Et je me suis dit, avec mon jeune âge, j'ai besoin de faire quelque chose de différent pour imposer des idées. Et c'est là qu'est née cette idée de Tour de France des initiatives locales, à la rencontre de 150 maires partout en France pour identifier leurs meilleures pratiques, leurs meilleures initiatives, ce dont ils sont fiers, mais aussi celles qui marchent, concrètement pour changer la vie des gens, pour changer l'esthétique des villes. Et après 25 rencontres dans des maires, dans des mairies un petit peu partout en France, il y a déjà des idées qui émergent, et notamment pour la jeunesse, mais on pourra en reparler.
Donc tu as commencé ce Tour de France à quel moment ? C'était en 2021 ou...
Non, j'ai commencé en février par une rencontre à Toulouse avec Jean-Jacques Bolzan, un élu en charge du bien manger, qui m'a reçu avec quelques posters de fromage de Rocamadour, de bon vin du Gers et de cochon noir de Bigorre, et qui me parlait un petit peu de la stratégie qui avait été mise en place par la métropole, justement pour faire en sorte que, notamment dans les cantines scolaires, dans les lycées, il y ait plus de bio, plus de local. Et c'est quelque chose que chez nous, on commence à faire, mais on n'a pas forcément les méthodes. Eux les ont trouvées, et dès demain, on pourra le mettre en place aussi localement chez moi dans le Cher.
Donc toi personnellement, Raphaël, tu n'es pas encarté, tu n'es pas rattaché à un parti politique, contrairement à toi, Quentin.
Absolument.
Alors est-ce que, je voudrais commencer par cette question, Raphaël, est-ce que le fait que tu ne sois pas encarté, c'est que tu penses que d'une certaine façon, l'engagement politique traditionnel n'est pas en mesure d'apporter un véritable changement ?
Alors, pour commencer, j'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin d'être encarté pour être engagé. Ça, c'est le premier point. Et notamment quand on a un engagement politique au niveau local. Qu'on soit de droite, de gauche, vert, jaune, gris, ce qu'on veut, on peut faire de très belles choses pour son territoire. Et dans une logique plutôt entrepreneuriale, plus que politique d'ailleurs. Ensuite, les partis ont leur utilité dans la démocratie, puisqu'ils représentent un certain nombre de corpus d'idées, ou en tout cas un équilibre qui, on l'a vu ces 5 dernières années, a été pas mal chamboulé. Des contestations ont émergé contre justement cette déstructuration un petit peu de la politique traditionnelle. Les partis sont nécessaires, ils ont leur utilité, notamment en termes de poids politique pour défendre des idées. Et pour autant, à mon âge, à 21 ans, je considère que nos idées ne doivent pas être trop stéréotypées par le cadre très partisan que peuvent amener les partis. Mais je respecte totalement toutes les personnes qui sont encartées, évidemment, et leur place est évidemment très légitime.
Quentin, toi, tu es élu dans la commune d'Ouchamps, c'est bien ça ? Alors,
la commune déléguée d'Ouchamps, qui fait partie de la commune nouvelle du Contrat en Sologne, donc magnifique territoire, je vous invite à vous y rendre.
Donc j'imagine que ce que j'ai appelé l'engagement politique traditionnel, c'est quelque chose qui te parle encore, malgré ce qu'on peut entendre sur la jeunesse et le désamour, entre guillemets, des jeunes pour l'engagement traditionnel.
C'est sûr qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui n'y croit plus, qui ne veut plus aller voter, et franchement, ça rend triste, parce que c'est pourtant les fondamentaux de la démocratie, c'est aller voter, et dès 18 ans, faut se mobiliser. Et en fait, pour moi, l'engagement, ça peut être dans une association sportive, ça peut être dans un syndicat, ça peut être dès le lycée. En fait, on peut tenir le journal de son établissement scolaire. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes, faut s'engager, que ce soit dans les syndicats étudiants, même dans les syndicats des branches professionnelles, dans son village, pour son association sportive, ou même dans les associations culturelles et musicales. Mais bon, moi, c'est une notion de politique traditionnelle, enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, pourquoi je me suis engagé, c'est parce que déjà, j'aime les gens, j'aime écouter, voilà, être... Ce qu'ils veulent changer, faisons-le ensemble. J'aime les gens, j'aime mon territoire, le Contrat en Sologne, mais aussi le Loir-et-Cher, la région Sainte-Loire, où j'ai grandi finalement, en Beauce dans un premier temps, et puis après j'ai fait mes études et je suis revenu en Sologne viticole. Et puis en fait, moi je me suis engagé parce que j'étais à fond sur l'Europe. Je pense que c'est à cette échelle-là qu'on peut, enfin, c'est notre avenir, et c'est ça qui m'a motivé pour m'engager au local, pour essayer de faire bouger les lignes, dans une aventure collective et avec les autres. Voilà, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'écoute, et puis la détermination, et puis de vouloir changer les choses ensemble. Alors là, tu nous as invités parce que on était des élus jeunes, mais moi, j'ai pas envie de me placer les jeunes contre les moins jeunes. Je pense qu'il y a la question de l'intergénérationnel. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des anciens qui ont l'expérience. Et je pense que ces jeunes, anciens, qu'on peut faire avancer les choses pour l'intérêt du territoire et des projets concrets, des petits projets, des grands projets. Ça peut aussi être bénévole au théâtre ou... par exemple le Théâtre de l'Orme, en fait, parfois je donne un coup de main et ils font un super programme. Donc voilà, c'est donner des coups de main, être bénévole ou tout simplement participer à la vie de la cité. C'est ce qu'on peut faire du moment qu'on est motivé.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
21 ans pour ma part.
J'ai 32 ans.
Et est-ce que, Quentin, quand tu as commencé ton parcours politique, est-ce que tu restes, entre guillemets, même à 32 ans, une exception dans la sphère politique locale ?
Bon, moi, c'est simple, je suis le plus jeune élu de ma commune. Il y a une Élodie Péan qui est élue départementale aussi, on a le même âge, à quelques mois près. Et je suis aussi le plus jeune élu intercommunal, donc c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver avec les personnalités du territoire, celles qui font qui bougent les lignes, qui font avancer des projets. On essaye d'être à leur écoute, de travailler avec eux sur des projets concrets.
Et Clémentine, tu utilisais à juste titre le terme exception, et ce terme il est très juste. Aujourd'hui, si on regarde l'échantillon des maires de France, 97% d'entre eux ont plus de 40 ans. Ce qui veut bien dire que les jeunes engagés en politique et à bon niveau en politique, c'est-à-dire un poste qui leur permet de prendre des décisions et de donner des orientations pour leur territoire, ils sont souvent assez âgés, c'est vrai. Donc pas de quoi en faire une lutte entre les générations, mais en tout cas il y a un appel à passer pour que plus de jeunes puissent s'intégrer dans les sphères politiques au niveau local en tout cas. Et c'est peut-être aussi à cette ancienne génération d'être plus ouverte à faire entrer ces jeunes à un bon niveau de responsabilité dans les délégations, qu'elles soient communales, intercommunales, départementales, régionales, justement pour dire aux jeunes, c'est possible, engagez-vous, vous aurez des responsabilités. Et les jeunes ne demandent que ça. Pourquoi 70% des moins de 35 ans vont aller voter sans conviction ce dimanche ? Notamment parce qu'elles ne sont pas impliquées. Et à partir du moment où on ne se sent pas impliqué, on se dit que d'autres vont prendre des décisions à notre place. Il y a une forme de fatalisme qui s'installe. Et c'est ça qu'il faut changer en priorité.
Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'était les élections départementales et régionales l'année dernière. C'était le vote des, je ne sais plus le chiffre exact, mais le vote des moins de 25 ans. Il y avait une abstention de 80 ou 85%. Mais pour moi, ça, c'était la mort de la démocratie. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, faut mobiliser autour de nous nos amis, la famille, les camarades de classe ou les... faut aller voter. Pour moi, c'est le plus important. On ne peut pas transiger là-dessus, clairement.
Il y a un excellent livre qui a été publié il y a peu, qui s'appelle La Fracture, publié par Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP Opinion, et qui revient sur tout un ensemble de sondages depuis 1957. En 1957, on est juste avant la mort de la 4e République, et le journal L'Express, sous la direction de Françoise Giroud, demande un sondage sur les moins de 35 ans et sur les moins de 24 ans. Et depuis, ces sondages ont été répétés d'année en année, et on se rend compte qu'il n'y a jamais eu une aussi grande fracture entre les générations et entre la jeune génération et la politique en général. Aujourd'hui, il y a 81% des moins de 24 ans qui considèrent que les politiques sont des escrocs, sont malhonnêtes. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne vont pas voter. Et en revanche, ils sont plus positifs que les anciennes générations. Il y a pas mal de points d'écart. Il y a 7 jeunes sur 10 qui sont quand même confiants en l'avenir. Et ce qui ressort en fait de ces sondages, c'est qu'ils croient en le libéralisme, en la responsabilité, en l'autonomie et en pouvoir de décider pour soi-même. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour matérialiser tout ça, engagez-vous. Tous les jeunes, engagez-vous.
Et tu parlais de cette image d'escroc qu'une grande majorité de la population a concernant les hommes politiques. Est-ce que toi, Quentin, c'est quelque chose au quotidien que tu ressens à ton échelle d'élu local ?
Tu peux répéter la question que...
Raphaël parlait de cette image d'escroc et concernant les hommes politiques. Ouais. Est-ce que toi, à ton échelle, au niveau local, tu peux ressentir cette...
Honnêtement, avec les élus locaux avec qui je travaille, franchement, c'est des gens passionnés qui donnent énormément de temps, qui font avancer leur territoire. Et on peut le voir sur notre territoire Val-de-Charcontrois. Franchement, c'est des élus passionnés qui font beaucoup de sacrifices, qui font avancer les choses. Et moi, je peux pas dire que... Peut-être au niveau... C'est vrai qu'on a...
Au niveau national,
on entend les affaires dans les médias, donc forcément, on a l'impression que tous les politiques sont des escrocs, mais en fait, t'as quelques affaires qui ressortent. Et ça, honnêtement, les élus locaux, il y a 300 000 élus locaux en France, mais ils se donnent à fond. Ils aiment leur village, ils aiment leur territoire, leur ville. Ils sont pas la très grande majorité ne sont pas là-dedans. Faut pas...
Et ma question n'était pas est-ce que les sujets... les élus locaux sont des escrocs, mais est-ce que tu ressens ces idées que peuvent ressentir les populations locales? Est-ce que les gens te disent, les gens que tu rencontres au quotidien, je crois plus en la politique ou des choses comme ça?
Oui, non, franchement, je rencontre des gens, ils me disent, moi je crois plus en la politique, mais je peux les comprendre. Je comprends ce désamour des jeunes ou de la population pour la politique, ça me déçoit. Et puis, c'est pour ça, moi, quelque part, j'ai envie de rentrer dans le tas. Je me loupe. Tant pis, j'aurais essayé, mais au moins, je donne tout et puis on verra à la fin. Et puis, faut essayer comme on peut. Et je voudrais revenir parce que c'est vrai qu'on voit un peu les sujets, les sujets globaux. Enfin, quand même, il y a quand même l'urgence climatique. Là, on n'a plus trop le choix, là, il faut s'engager, clairement, il y a les rapports du GIEC qui sortent régulièrement, c'est assez alarmiste, hein, c'est des rapports sérieux, donc comment la jeunesse ne peut pas s'engager? D'ailleurs, elle s'engage sur les manifestations pour le climat, donc ça, c'est une forme d'engagement politique, et c'est super, il faut continuer ça. La question de l'égalité homme-femme, franchement, c'est pas normal que les mères de famille ou les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, faut qu'elles puissent avoir les mêmes conditions de s'épanouir que les hommes, c'est pas normal. Par exemple, en Allemagne ou en Suède, le congé parental, c'est sur quasiment un an. En France, il y a une forte inégalité, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et puis on a eu la guerre en Ukraine, donc on voit qu'il y a l'urgence européenne. Là, il y a sentiment d'identification un futur collectif français, allemand, italien, espagnol, Europe centrale, orientale. On doit être ensemble pour défendre la démocratie, qu'elle soit européenne, mais la démocratie, elle est locale, dans nos territoires ruraux, dans nos villages. On a une géographie française qui est variée, qui est riche de notre diversité. D'ailleurs, c'est aussi la devise européenne. Donc, il faut s'engager sur autant qu'on peut là-dessus.
Raphaël, pour toi, quelles sont les grandes causes qui tiennent à cœur la jeunesse française en 2022?
Quentin les a très très bien résumés. C'est vrai qu'on voit beaucoup la mobilisation des jeunes, à la fois dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur ces questions climatiques, sur ces questions de genre, sur ces questions de justice sociale en général. On parle beaucoup de la culture woke. Alors, on la met un petit peu à toutes les sauces, mais en tout cas, il y a un vrai clivage générationnel entre notre génération qui est vraiment très très impliquée sur ces grandes causes mondiales, mais on est aussi cette génération qui a connu la mondialisation, notamment par les réseaux sociaux, par cette culture commune. Mais il ne faut pas oublier le local, parce que l'engagement, il commence là, il commence sur cette petite sphère d'influence. Il y a une grande table autour de nous, on peut dire que c'est le monde, et en fait, notre sphère d'influence, c'est le trou de la prise qui est devant nous. Et cette petite zone sur laquelle on est capable d'agir, il ne faut pas hésiter à agir. Et comment on fait pour s'engager? C'est peut-être un conseil municipal, oui, mais c'est tous les 6 ans. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, il y a les associations qui sont là, et de cet engagement quasiment militant qu'on voit sur les grandes causes, à l'inverse, les associations ont de moins en moins de bénévoles jeunes, et justement, il y a de la place, il y a des places à prendre, il y a des responsabilités à prendre, et il y a plein de choses à faire et à apprendre aux côtés notamment des anciennes générations sur comment créer un événement, sur comment fédérer les gens, sur comment faire en sorte que notre nature soit moins polluée, sur comment faire en sorte que nos places publiques soient plus animées. Et là, les jeunes ont un rôle à jouer et peuvent être entrepreneurs de ce changement.
Quentin, tu parlais de l'importance de l'échelle européenne qui te tient à cœur. Comment on fait vivre au quotidien, localement, l'échelle européenne?
C'est une très bonne question. C'est déjà, je pense qu'au niveau de nos territoires ruraux, on a quand même la PAC qui, elle a un peu souffert, on va dire, des budgets européens migratoires et de défense, mais qui soutient les agriculteurs. Je sais que les éleveurs, c'est plus compliqué pour eux. C'est vrai que c'est pas évident. En zone rurale, on a le programme de développement rural et local Leader, qui allie qui fédère le public, le privé. C'est une démarche ascendante, c'est-à-dire que ça peut venir de votre voisin, du petit paysan à côté de chez vous, et ça, c'est super. Ça peut venir de l'associatif, qui marque sur l'innovation, la coopération. Donc, c'est faire connaître toutes les initiatives de l'Europe au quotidien. Par exemple, le numérique est soutenu par l'Europe. Il y a plein de sujets dont on doit parler, nous, les élus locaux, les acteurs des territoires, que l'Europe fait, et il faut en parler au maximum possible. Ouais.
J'ai l'impression qu'on est une génération qui a grandi avec l'Europe. Et est-ce que vous, de mon point de vue personnel, j'ai pu rencontrer de jeunes, par exemple, qui émettaient des réticences sur l'Union européenne. Qu'en est-il, vous, de votre côté, le rapport de la jeunesse avec l'Union européenne ?
Je pense que ces dernières années, on s'est quand même rendu compte, quel que soit notre âge, que l'Union européenne était essentielle. La crise sanitaire, les pays européens ont fait preuve de beaucoup de résilience ensemble, justement, pour faire en sorte que notre industrie soit réorientée sur la production de biens essentiels à tous, qu'ils soient sanitaires, alimentaires. La politique qui a été menée aussi au niveau des banques centrales pour permettre à nos commerçants, nos artisans, nos PME, nos grands groupes, de survivre à cette crise sanitaire, c'est pas seulement la France, c'est aussi l'Europe, puisqu'on a quand même une monnaie en commun, donc on peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qu'on est aussi obligé de faire bloc sur ces questions de défense, mais aussi faire bloc sur les questions économiques, puisqu'on va parler du blé. J'entendais à la radio ce matin qu'on allait avoir une pénurie de tournesol. Bon, bah, pour continuer à faire tourner nos friteuses, on aura quand même besoin d'huile. Et cette huile, elle vient de quoi ? Elle vient des céréales au niveau de l'Union européenne. Donc c'est des choses très très concrètes. Et l'Europe, il faut arrêter de l'imaginer comme quelque chose de très lointain qui se passerait à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est dans notre vie de tous les jours. Les soutiens de l'Union européenne à l'agriculture, on est dans une région qui est éminemment agricole, et bah, il faut dire que l'Europe, elle est à nos portes. Donc c'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas plus de bureaux de l'Union européenne un petit peu répartis sur les territoires. Ça permettrait de créer un petit peu plus de proximité avec les citoyens français, et ce, quel que soit leur âge.
Je vous propose une petite pause musicale. On écoute Politic Man de Somti et on se retrouve juste après. Et nous sommes toujours dans la lorgnette avec un nouvel épisode ce soir consacré au rapport de la jeunesse à la politique. J'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle sur votre engagement en politique. Comment il est né ? Est-ce que votre famille, vos parents étaient intéressés par la politique ?
Mon grand-père paternel, qui travaillait dans une usine de textile en Ardèche, était représentant syndical. Donc pour lui, c'était un engagement du quotidien, notamment dans cette période des Trente Glorieuses qui avait vu pas mal de négociations entre le patronat et les syndicats. C'était un engagement du quotidien et sa politique à lui, elle était là. Du côté de ma grand-mère maternelle, il y avait presque un poster de Sarko sur le frigo, donc on était à l'autre opposé. Après, moi, mon engagement en politique, une politique du quotidien qui est une politique locale, je la tiens plutôt de ce que j'ai vu autour de moi ces dernières années, de cet attachement à ma commune et d'avoir vu aussi mon père au conseil municipal sur le mandat précédent. Ça m'a donné envie en tout cas de faire des choses. Il y a ces conseils municipaux qui sont un moyen d'expression de ces idées aussi, et mon engagement s'est traduit comme ça.
Et pour ta part, Quentin ?
J'ai mon père qui a été élu municipal en Beauce 2 ans. Donc ça m'a un peu interpellé. Je crois que j'avais une grande tante qui tenait des bureaux de vote, TPS à l'époque. Après, j'ai un oncle aussi qui était élu municipal dans le sud-ouest. Après, j'ai pas trop de liens dans ma famille, mis à part ça, avec la politique.
Alors, comme tu nous en faisais part, Raphaël, avec ta propre expérience à l'ESSEC, c'est souvent la jeunesse scolarisée qui est la plus politisée. Comment on peut localement faire en sorte d'intéresser les jeunes, par exemple des collégiens, des lycéens, à la politique ?
Clémentine, c'est une question que je me posais ces derniers jours. Demain, j'ai un conseil municipal et je vais remettre un ensemble de propositions justement pour faire en sorte que les jeunes puissent s'engager plus facilement dans la vie de la cité. Il y a plein d'outils qui existent. Il y a la fin et les moyens. La fin, c'est faire en sorte que les jeunes soient engagés, soient mobilisés et puissent exprimer leur opinion, leurs idées et mener des projets. Après, quand on regarde du côté des moyens, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Dès le plus jeune âge, il y a une initiative que j'ai pu observer dans le cadre de mon Tour de France, à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, où l'élu Maxence de Rugy, à la suite des attentats, a dit qu'il faut faire en sorte que, dès les classes de CM1, CM2, les jeunes puissent avoir des cours d'éducation civique d'une manière un petit peu plus ludique. Il a créé le passeport du civisme, qui est un ensemble d'actions qui sont menées en étroite collaboration avec les acteurs locaux, avec les professeurs, sur l'écologie, sur le devoir de mémoire, sur la solidarité. Et à la fin, il y a quelque chose de très ludique qui est ce petit passeport qu'on remplit et les jeunes sont initiés à cette vie civique. Après, comment on fait pour que ça se pérennise ? Au collège, au lycée, il y a des initiatives aussi qui sont menées. Alors, le passeport du civisme s'est développé sur ces tranches d'âge, mais les communes ont aussi un rôle à jouer et on a vu se développer dans beaucoup de communes en France les conseils municipaux des jeunes. C'est un outil qui devrait être universel et qui devrait être imposé à toutes les communes. À Neuvy-sur-Barangeon, on ne l'a pas encore, ça ne saurait tarder. Mais c'est important, en tout cas, de donner un champ d'expression à ces jeunes. Et les conseils municipaux de jeunes, c'est quelque chose de formidable. Quand on voit une tablée avec 30 jeunes, et j'ai eu l'occasion d'assister à ces conseils municipaux dans des communes, notamment en Île-de-France, c'est formidable de voir leurs idées, de voir leur engagement, de voir leur passion. Et donc ça, c'est en tout cas un bon moyen de préparer aussi la prochaine génération d'élus locaux. Quand ces jeunes auront 18 ans, quand ils auront 20 ans, 25 ans, qu'ils se présenteront sur une liste et avec des prétentions pour devenir adjoint, voire maire, on peut être certain qu'ils auront reçu déjà en amont une petite formation et qu'ils auront leurs idées à défendre.
Je pensais à quelque chose quand tu parlais, mais c'est le vote des délégués dans les classes. Là, tu votes pour quelqu'un. Des fois, il y a des petites campagnes, des programmes. Qu'est-ce que je vais faire pour défendre mes petits camarades? Déjà, je trouve que c'est très chouette. Je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles, toutes les classes, mais je pense qu'il y a des délégués partout. Et ça c'est déjà un bon début. Donc, tu as parlé de l'éducation civique, et ça, je pense que c'est important. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à renforcer cette matière dans les programmes scolaires? À mon avis, oui, parce que c'est là où la démocratie, c'est là où la citoyenneté commence. Et puis aussi, je pensais un dernier élément, peut-être, c'est faire participer les écoliers aux cérémonies, par exemple, du 14 juillet, du 11 novembre. Ça peut être une solution. Comme ça, ils prennent part à la vie de la commune. Bah, voilà, Et qu'est-ce qu'ont fait les anciens, les guerres, voilà où on en est aujourd'hui, et les faire participer de façon citoyenne et civique. Ça, c'est, je pense que c'est des éléments, des premiers éléments de réponse.
Et puis si on doit souligner une bonne initiative qui a été prise par le gouvernement, c'est quand même ces services civiques qui permettent à plein de jeunes de s'engager dans des associations, sur des contrats de 6 mois, rémunérés qui plus est, où on va un petit peu professionnaliser l'engagement et donner des sécurités financières à ceux qui ont envie de faire quelque chose de différent sur un temps donné. Je retourne la semaine prochaine dans la communauté de l'Arche en Agenais, qui est en tout cas une structure d'accueil pour des personnes en situation de handicap. C'est une structure qui est associative. Il y avait des jeunes en service civique, ils étaient 5-6 et ils faisaient tourner des foyers de vie avec les personnes. C'était formidable. Pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés? Notamment parce qu'on leur donnait une sécurité. Un toit, un salaire et derrière, en tout cas, une validation de leurs acquis qui leur permettait, pourquoi pas, de s'engager sur cette même voie. Il faut donner la chance aux jeunes, notamment par des incitations financières et des sécurités quant à leur qualité de vie, pour qu'ils puissent s'engager. Ça, c'est fondamental.
Alors le cadre du service civique, il a aussi ses limites. Tu parlais de la rémunération, mais la rémunération reste quand même faible et on peut dire c'est des emplois salariés sous côté qui ne portent pas leur nom. Mais comment on peut essayer de... Alors j'entends, oui, le fait que le service civique puisse permettre une forme d'engagement, mais voilà, je voulais juste...
C'est un premier pas. C'est vrai que les salaires restent assez faibles. On va dire que c'est un petit coup de pouce qui n'est peut-être pas suffisant. C'est sur des temps donnés, à un moment de la vie aussi où on a besoin peut-être de moins, parce qu'on n'a pas forcément un grand logement, on n'a pas forcément beaucoup de besoins. Dans le cas que j'ai pu observer à l'Arche en Agenais, les personnes étaient logées sur place, hébergées. Oui. Donc je pense qu'elles vivaient pas trop mal. On a vu toute une série de promesses formulées par les candidats à l'élection présidentielle, notamment Jean-Luc Mélenchon qui propose 1063 euros, je crois, pour tous les jeunes de moins de 25 ans. Philippe Poutou qui propose 8700 euros, Anne Hidalgo 600 et quelques. Donc, tout n'est pas question d'argent non plus, mais en tout cas, il faut permettre aux jeunes d'avoir une forme de confort et il y a multiples raisons d'être stressé quand on est jeune. On s'inquiète des grandes causes, on s'inquiète de ce qu'on fera demain, donc comment ramener un petit peu de sérénité dans la vie de ces jeunes? Et ça, c'est une question qui est fondamentale et j'ai pas forcément la réponse d'ailleurs.
Moi non plus. Alors aujourd'hui, les jeunes parlent à leurs parents des TikTok de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron chez McFly et Carlito. Il y a cette mobilisation aussi sur les réseaux. Comment vous la vivez et qu'est-ce qu'elle apporte? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette politisation des réseaux sociaux?
Bon, c'est bien pour créer des communautés, des échanges, voilà, pour un peu défendre les causes qu'on veut mettre en avant. Moi j'avoue, TikTok, j'ai pas. Twitter non plus, je me suis fait pirater mon compte. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. mais je suis sur Facebook et Instagram. Après, mais ça remplace pas la rencontre avec les gens. Enfin, c'est vrai que moi, je vois des gens qui ils se connaissent sur les réseaux sociaux, mais ils se connaissent pas en vrai. Donc c'est un peu bizarre des fois. C'est bien pour créer des projets parfois, mais ça ne remplacera pas les rencontres physiques, etc. Après, par exemple, on va prendre un exemple concret. Par exemple, avec l'Ukraine, ils ont pu échanger largement avec Telegram, qui était une messagerie cryptée. Donc, il y a quand même des intérêts sur ces situations compliquées. Donc après, c'est évidemment intéressant pour créer des communautés et défendre des projets qui nous tiennent à cœur.
Clémentine, tu évoquais TikTok, tu évoquais McFly et Carlito. Je ne vais pas dire que c'est la solution pour cette distance entre les jeunes et la politique en général, mais il faut reconnaître une chose, qu'on peut reconnaître d'ailleurs à Cyril Hanouna et ses émissions par ailleurs, c'est que ça rapproche la politique des Français. En la simplifiant, en créant du débat sur des thématiques qui leur sont chères, et c'est un premier pas vers la politisation et en tout cas l'engagement des Français sur des causes. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai l'impression, quand je vais en tout cas sur mon fil d'actualité Facebook, que tout me conforte dans mes idées.
C'est aussi une histoire d'algorithme.
Une histoire d'algorithme. parce que je suis des pages d'actualité qui de toute façon confortent plus ou moins mes opinions. Comment on fait pour justement s'ouvrir sur d'autres débats, sur d'autres causes, sur d'autres opinions, pour vraiment se forger sa propre opinion à soi et pas celle que nous propose l'algorithme Facebook. Ça demande d'aller élargir un petit peu plus le spectre et d'aller véritablement faire un travail de recherche sans être universitaire, mais en tout cas aller lire les documents sources. Et ça commence par lire les programmes. Je pense que peu l'ont fait parce qu'on accorde beaucoup d'importance à quelques idées, à quelques vidéos qu'on a pu voir et à la représentation que peuvent se donner les candidats. Si on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on pensait au départ. Et les réseaux sociaux ont ce petit danger-là, mais il faut quand même reconnaître qu'ils redonnent en tout cas des clés de compréhension politique aux Français, notamment aux jeunes.
Il y a par exemple les pétitions en ligne, donc c'est de nouvelles formes d'expression politique. Mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant et est-ce qu'une démocratie peut se contenter d'un engagement de cette forme-là ?
Moi, il y a un piège aussi que nous n'avons pas évoqué. C'est la question des faux profils, les trolls. Enfin, aussi, combien de fois je vois des gens se prendre la tête sur les réseaux sociaux alors que, enfin, ils se connaissent pas forcément. Après, il y a des gens qui ont des profils, mais je sais pas, c'est un choix personnel. Ils ont pas de visage, on sait pas qui c'est en fait. Donc, c'est bizarre d'échanger ou de débattre avec des gens, on ne sait pas d'où ils viennent et on ne sait pas non plus qui ils sont. Donc ça peut interpeller. Donc moi, franchement, à titre personnel, je débat plus trop sur les réseaux sociaux. Je peux poster certaines activités, des idées que je souhaite partager, mais je débat plus trop sur les réseaux sociaux parce que ça peut vite partir un peu dans des débats où chacun se recroqueville sur ses opinions. Et si on veut débattre avec les gens, on les rencontre et c'est ça la démocratie, davantage que sur les réseaux sociaux. Moi, je suis davantage pour une démocratie de terrain, de territoire, qu'une démocratie des réseaux sociaux.
Quentin, tu parlais de l'importance pour toi du vote. Et est-ce que vous comprenez quand même cette jeunesse et les autres franges de la population qui choisissent de s'abstenir par conviction politique ?
Moi, il y a quelque chose. C'est vrai qu'aller dans un bureau de vote, à chaque fois, c'est le dimanche et ça tombe dans les... pendant les vacances, etc. Mais moi, à titre personnel, je suis pour qu'il y ait un vote sur Internet. Ça serait beaucoup plus simple. Beaucoup d'associations le font. Après, faut voir de quelle façon ça peut être sécurisé, parce qu'il y a toujours le risque cyber. Mais après, je suis sûr qu'il y aurait très certainement beaucoup plus de participation des jeunes si le vote pouvait se faire sur Internet. Après, à voir comment on peut travailler ce projet.
Ça revient un petit peu à la question que tu posais juste avant, Clémentine, sur ces pétitions en ligne, sur ces votes en ligne. Globalement, c'est comment faire en sorte que les citoyens soient consultés aussi plus régulièrement. On ne peut pas demander aux citoyens d'aller tous les dimanches aux urnes, même si de moins en moins vont à la messe le dimanche, mais globalement, on a quand même d'autres choses à faire. Si on arrive à simplifier le processus de vote, notamment par des votes en ligne, et qu'il y a en tout cas les moyens technologiques qui permettent d'être sûr de leur fiabilité et de leur sécurité, alors oui, on peut interroger plus fréquemment les Français sur ce qu'ils veulent avoir, sans attendre tous les 5 ans pour les présidentielles et tous les 6 ans pour les municipales, mais faire voter les gens de manière assez récurrente sur la couleur des bancs, sur tel projet urbain, sur telle politique pour la jeunesse ou de soutien aux commerçants. Et c'est aussi une forme d'acculturation pour commencer sur des petits projets votés en ligne et demain peut-être aller voter carrément pour des élections municipales en ligne. Et il y a des villes qui commencent à l'expérimenter. Je rencontrais il y a peu Jean-Christophe Fromentin, qui est le maire de Neuilly-sur-Seine, qui a d'ailleurs beaucoup œuvré sur la question des territoires. Il a mis en place, en tout cas, avec une solution qui s'appelle Electis, le vote en ligne sécurisé, avec des technologies de blockchain. Bon, j'ai pas tout compris à comment ça fonctionnait, mais en tout cas, ça a l'air très fiable. Et les habitants de Neuilly s'y font, tout d'abord sur quel livre on met à la médiathèque, sur quel film on va projeter au cinéma dimanche. Mais ça commence par là. Et quand on aura réussi à passer ce cap de la crainte et de la défiance liée au vote en ligne, alors on pourra multiplier ces initiatives et pourquoi pas demain voter complètement en ligne pour la présidentielle.
J'ai le sentiment aussi que certains jeunes pensent que leur réflexion est vue comme illégitimes et comment on peut leur redonner confiance et leur donner l'impression que, et pas seulement l'impression, mais que leur voix est légitime et qu'ils peuvent l'exprimer.
On s'est regardé, c'est une bonne question.
Non, mais peut-être que Corneille l'a dit il y a quelques centaines d'années, c'est dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et qu'on ait 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans ou 99 ans, on a tous une opinion, on pense tous, on voit, on perçoit, on comprend un certain nombre de choses, et on a tous un avis. Même un enfant de 3 ans, il a un avis. Si on lui demande de choisir un yaourt à la fraise ou un yaourt à la pomme, il va avoir un avis. Bon, c'est un niveau d'engagement qui est moindre par rapport à un choix lié à des candidats à une élection, mais néanmoins, je pense qu'un jeune n'est pas moins légitime qu'une personne qui aurait déjà 15 votes derrière elle pour donner son opinion. Et aujourd'hui, quand on voit les sujets qui sont évoqués, on parle de changement climatique, on parle d'égalité homme-femme, on parle d'avenir de notre économie, on parle de sécurité, on parle du monde dans lequel on va vivre demain. Nous, et là je vois autour de la table, on est 4 jeunes, on a aussi envie de donner notre opinion sur ce qui peut advenir dans les décennies à venir.
Non, c'est sûr que les questions de société, les questions de politique, les questions européennes, les questions culturelles, les questions de démocratie locale, ça concerne déjà tout le monde. On a tous un vote, quel qu'il soit. Et particulièrement, la jeunesse, on est davantage concernés parce qu'on va décider du monde d'aujourd'hui, mais de demain également. Et c'est vrai que tu parlais des questions climatiques. Faut voir que en 2050, l'Europe vise la neutralité carbone. Ça implique des changements très importants dans notre quotidien tous les jours. Hein. C'est pas oui, je vais faire ça dans une semaine, je vais réfléchir. Ça va être le compost. Ça peut être notre consommation, les appareils ménagers qui restent allumés en pleine nuit chez nous. C'est vraiment des petits détails. Mais si on fait tous attention, on peut faire des changements considérables pour demain.
Et les jeunes peuvent être complètement précurseurs si on les accompagne bien aussi sur ces changements. Il y a quelques semaines, j'entendais parler d'un championnat de France des économies d'énergie dans les écoles, le concours CUBE. Le concours CUBE, concrètement, c'est les écoles qui se lancent au défi de faire le plus d'économies d'énergie entre elles, au niveau national. L'école qui a le mieux réussi, c'est une école en Alsace, où en fait, ils ont réussi à baisser de 25% la consommation d'énergie de l'école. Pourquoi ? Parce que les enfants, avant de partir, étaient vigilants. Coupez bien les robinets, coupez bien les interrupteurs, débranchez un certain nombre d'appareils. Faisait attention le midi à bien faire en sorte que la salle soit complètement éteinte, fermée, qu'on n'ouvre pas des fenêtres. Ça commence par là. Et quand on sait que le bâtiment représente quasiment 38% des émissions en France, on a tous une maison, on a tous un bureau, on a tous une chambre. Et pour les jeunes, ça peut commencer par là et c'est déjà une première démarche. Après, oui, il y a les grandes mesures nationales et il y a la question de l'acceptabilité de ces mesures. On l'a vu notamment sur les taxes carbone qui ont un impact sur le prix de l'essence notamment. Bien sûr, c'est considérable en termes d'impact pour la planète, mais dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours, ce qui est acceptable par tous, c'est déjà de faire des petits efforts au niveau individuel.
On a parlé de cette importance de cet engagement au quotidien et très local et peut-être plus individualisé aussi et moins idéologique entre guillemets. Est-ce que le fait qu'on soit dans ce système démocratique où le rôle du président est encore a encore un rôle clé et très très important, est-ce que cet aspect d'homme fort d'État, c'est quelque chose qui vous parle encore ou que vous trouvez un peu désuet?
C'est comme une tradition historique française. Hein. L'histoire française a été marquée par de très grandes personnalités. Hein. Quand on regarde ces derniers siècles, on pense, je sais pas, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Voilà, c'est vraiment des personnalités fortes qu'on fait l'histoire.
Et
oui, mais oui, on sait aussi à Simone Veil. Hein, mais la France, c'est aussi un peuple et qui s'inscrit maintenant dans une histoire, une construction européenne. Et Et c'est vrai que la France et l'Europe, on attend toujours un peu la personnalité providentielle, la personnalité qui va changer les choses. Mais je pense qu'on est tous amenés, on est tous invités à s'engager, hein, quelle que soit notre cause. On en a parlé, environnementale, citoyenne, associative, culturelle, sportive, à avoir des avancées pour le quotidien. Et déjà, si on s'implique personnellement, collectivement à cette œuvre, ces engagements territoriaux, nationaux, européens, déjà, ce sera déjà pas mal.
C'est vrai qu'il y a une forme de mythe associé à celui qui revêt l'écharpe, qui prend une présidence, qu'il faut peut-être un petit peu mettre en abîme et se dire que finalement, c'est pas une fin en soi d'avoir une écharpe, c'est pas une fin en soi d'être président de la République. Et peut-être que si on réfléchit comme ça, on votera différemment et on ne cherchera pas forcément l'homme fort, justement, mais on aura plutôt tendance à voter peut-être déjà pour plus de femmes. Et c'est un problème au niveau de la présidence de la République, mais c'est un problème aussi dans tous les conseils municipaux. Aujourd'hui, 80% des maires en France sont des hommes. Et si on regarde au niveau des intercommunalités, le chiffre est encore plus élevé. Donc il faut peut-être casser cette image de l'homme fort ou de la personnalité forte à la tête des institutions pour aller vers plus de sensibilité et de réflexion sur les finalités proposées par les candidats.
Et juste chose, je voudrais rebondir, c'est vrai qu'on est tous, les uns les autres, on a tous notre responsabilité. C'est pas, ça va être quelques personnes au conseil municipal, ça va être quelques députés, quelques ministres, quelques chefs d'État de gouvernement dans l'Union européenne qui vont faire avancer des sujets clés. Non, c'est nous tous, je pense qu'on doit s'engager et prendre nos responsabilités, parce que là, on peut plus trop... je vais voir ce qui va se passer, puis après, on verra. Non, je pense que là, maintenant, faut y aller.
Alors, chaque semaine dans la lorgnette, on vous propose un conseil de lecture, de film, de documentaire en lien avec le thème de l'émission. Et ce soir, on a choisi le documentaire qui s'appelle « La cravate », réalisé par Mathias Théry et Étienne Chailloux, sorti en 2020. On avait déjà entendu les noms de ces deux réalisateurs à la sortie de leur documentaire « La sociologue et l'ourson ». La cravate raconte l'histoire et fait le portrait de Bastien. Il a 20 ans et milite depuis 5 ans au Front National. Quand débute la campagne de 2017, il est invité par son supérieur à s'engager davantage et passe donc une cravate. On écoute la bande-annonce.
Et donc, voici le texte. Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. Je pense pas pareil, tu le sais bien.
Mais oui, je sais bien.
On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti.
Bastien, Fabien, bonjour.
On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition.
Ça fait un peu flipper tout ça quand même.
Le supérieur du héros sentait qu'il fallait se méfier.
Non, après, il filme, je veux dire des trucs. Je veux pas de cette séquence dans le montage final, tout ça est confidentiel.
Mais pouvait-il agir contre cet attachement étrange qui s'était tissé peu à peu entre son militant et l'équipe de cinéma? Qui mêlait la tendresse et le dégoût, la ruse, la langue de bois, le mensonge et la sincérité.
Mais je passe pour un salaud, du coup. J'étais un salaud.
La fin du récit est connue, c'était en mai 2017. Mais on lira auparavant tout ce qui animait Bastien Régnier pendant que s'écrivait une page nouvelle du roman national.
Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film.
Ouais.
Donc dans ce documentaire, Bastien, donc qui milite pour le Front National, se raconte face caméra et lit face caméra également le récit de sa vie écrite par les réalisateurs. Donc c'est un dispositif dans ce film documentaire très intéressant parce que Bastien réagit à son propre récit de vie écrit par les réalisateurs. Il n'y a pas de côté moralisateur. Le film nous permet de comprendre les racines d'un tel engagement et les réalisateurs parviennent à établir un dialogue avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques que les leurs. Voilà, je vous le conseille, il est visible et puis disponible en VOD assez facilement. Merci tous les deux, Quentin et puis Raphaël, pour votre participation. Est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin ?
Ouais. Je pense que nous devons tous aller voter. C'est très important pour la démocratie, quel que soit notre vote. Moi, j'invite à tous les jeunes, les moins jeunes, de s'engager dans les assos, dans les syndicats, partis, peu importe, et à participer au changement de notre société.
Complètement. Allez voter dimanche, allez voter dans 15 jours. Et dans 16 jours, vous engagez au quotidien, allez voir votre maire, allez voir les députés et leur poser des questions, leur demander comment aider, comment s'engager. Et puis peut-être juste pour finir, vous remercier Garance et Clémentine pour l'invitation.
Merci à vous.
Belle radio locale.
Je ne veux plus entendre parler de la lorgnette. Je ne veux plus voir une seule lorgnette de ma vie.
Avril, on se retrouve pour faire le tour de la programmation de ce week-end du 9 et 10 avril et de la semaine à venir. Ce soir, à 20h30, le Minotaure de Vendôme vous propose un concert de la chanteuse Amélie Les Crayons, accompagnée sur scène par Les Doigts de l'Homme, un quintet de jazz manouche dont la musicalité procure un son parfaitement reconnaissable. Pour cette première collaboration, Les Doigts de l'Homme refont le parcours de la carrière d'Amélie, chanteuse à la voix sincère, dénuée d'artifice, de superflu, proposant des arrangements de ses chansons avec cette approche si particulière qui a fait la réputation des Doigts de l'Homme, une rencontre à la fois improbable et évidente. Samedi matin, le collectif Nettoyons la Loire de Blois vous donne rendez-vous à 10h pour un ramassage en bord de Loire. Le rendez-vous est donné en bas de la rue du Commerce, n'hésitez pas à les rejoindre. Après le ramassage, je vous propose de faire le tour à la Maison de la BD, qui expose en ce moment le travail de Simon Hureau sur sa bande dessinée L'Oasis. L'auteur raconte comment il a redonné vie à son jardin, abandonné à la friche par son ancien propriétaire. Il a assisté à la renaissance d'une véritable biodiversité. Son terrain est devenu une véritable creuset de diversité végétale et animale. Sans connaissance particulière sur le sujet, avec beaucoup de recherches, de passion et d'huile de coude, il est parvenu à recréer une véritable oasis et témoigne ainsi des capacités de résilience de la nature. L'ouvrage rappelle aussi les livres d'histoire naturelle, les catalogues illustrés et les planches botaniques. Un album ludique, pratique et pédagogique sur la façon de créer son jardin et de protéger les espèces. Alors que la biodiversité est en déclin et l'être humain en est le principal responsable, Simon Hureau nous interroge sur notre capacité individuelle à œuvrer pour les générations futures. L'exposition est disponible depuis le 5 avril et dure jusqu'au 11 juin et elle est gratuite. Juste à côté de la Maison de la BD, le Muséum d'Histoire Naturelle présente les paysages de Blois, encore sous la mer il y a 15 millions d'années, pour l'exposition Ferry Blaisois, disponible jusqu'au 12 juin. L'entrée est au tarif unique de 2,50€. Le musée de la Corbière à Mer accueille en ce moment une exposition autour de l'histoire de la création de la Nouvelle-Orient à travers les cultures métissées et du jazz. L'exposition est gratuite et se termine le 17 avril prochain. Ce samedi soir, au programme, les Greniers de Vineuil vous proposent un concert à 21h, Back and Forth, un groupe de musique folk originaire de l'Indre. Le concert est de 5€, tarif unique. Le Château d'Eau, quant à lui, reçoit deux artistes pour une soirée, elle aussi folk, G-Sundy et Jawar, à 20h30. Les tarifs sont de 8€ pour les abonnés et 9€ pour tarif réduit. « C'est le week-end où la Maison de la Magie réouvre ses portes. N'hésitez pas à y emmener vos enfants. Le Château Royal de Blois, lui, relance son spectacle Son et Lumière tous les soirs dans la cour du château à 22h. L'entrée pour les adultes est de 11€ avec un tarif réduit à 9. Pour les enfants de 6 à 17 ans, c'est 6,50€ et gratuit pour les moins de 6 ans. Vous pouvez retrouver au château le lancement de l'exposition Renaissance des femmes. Reines et femmes de pouvoir ont façonné le château et y ont laissé une empreinte indélébile. Près de 130 œuvres et costumes issus du cinéma évoquent le destin, l'histoire, la condition et la position de ces femmes d'exception, freinées dans leur progression, valorisées ou dévalorisées au fil des siècles, marginalisées voire oubliées. Du statut des femmes à la Renaissance, à la naissance du féminisme, cette exposition rend hommage aux femmes du XVIe siècle, à découvrir du 9 avril au 10 juillet 2022. Pour voir plus loin après le week-end, la Fabrique de Blois vous propose mardi 12 avril à 17h30 une conférence gratuite sur le graphe. Voilà pour l'agenda du week-end.
Merci beaucoup Garance pour cet agenda. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio Zef, studiozef.fr. La lorgnette fait une petite pause pour les 15 premiers jours, c'est les vacances pour nous aussi. Et puis on se retrouve à la rentrée. Bonne soirée à tous et puis on se quitte sur...
On va s'écouter l'artiste qui passe au château d'eau, Jawar, et ça sera alors Charayarar Blues.
Merci, bonne soirée.
إذا النوم هرب علي دور كيسان القدرة بيا نحسبهم لين الصبحية جي وتهدي لي دم بنية وبعد الموت ما تجي الحرية نوم حزين تمكن بيا يشردني ويعبث بيا لين الليلة تطيح عليا يجيني نوم ليل ولا نجوم 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 شاد ضحية زينة البلاد على يديا ينفي ليلة جتني هي سلبتني من كره الدنيا سحرتني يا وبنت بيها لين النوم جوحن علي يا مولاد الف حكاية سرك سلطان حكم عليا جاني النوم محلاها نجوم جاني النوم محلاها نجوم جاني جاني النوم جاني النوم جاني النوم جاني النوم جاني النوم محلاها نجوم.